Bonjour à toutes et à tous, au micro Idrissa Sidoudia pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Au Niger, le candidat du pouvoir à la présidentielle de dimanche dernier, Mohamed Bazoum, l'a emporté avec près de 56% des voix face à son adversaire Mahamane Ousmane, une victoire qualifiée de hold-up électoral par l'opposition. Nathalie Barge et notre correspondant au Niger, Abdulrazak Idrissa, y reviendront plus en détail. Au Mali, la justice a renvoyé au 2 mars une décision sur une tentative présumée de coup d'État impliquant notamment l'ancien Premier ministre Boubou Cissé et le populaire animateur de radio Mohamed Youssouf Batili, dit Ras Batch. Nani Talani et notre correspondant à Bamako, Lamissa Sangaré, nous en parlerons dans quelques instants. Par ailleurs, au moins 2 soldats maliens ont été tués et 7 blessés mardi dans une embuscade dans la région de Mopti, dans le centre du Mali où sévissent des groupes djihadistes, a indiqué l'armée malienne. Au Nigeria, des combattants djihadistes ont tiré au mortier mardi sur la ville de Maïdougouri, dans le nord-est du pays, tuant 10 personnes et blessant 21 autres, a appris l'AFP de sources sécuritaires et auprès d'habitants. La campagne de vaccination contre la fièvre hémorragique Ebola a été lancée mardi en Guinée, plus d'une semaine après la résurgence de la maladie dans ce pays. Qui espère l'éradiquer en 6 semaines selon son ministre de la Santé. La campagne a pu démarrer après l'arrivée lundi soir à Conakry de plus de 11 000 doses de vaccins fournis par l'Organisation mondiale de la Santé qui prévoit d'acheminer des États-Unis 8 500 doses supplémentaires. Des associations et des rescapés du génocide au Rwanda demandent à la justice française d'enquêter sur les instructions données en 1994 par la France de ne pas interpeller les autorités responsables des massacres des Tutsis, selon leur courrier consulté mardi par l'AFP. S'appuyant sur la révélation récente d'un télégramme diplomatique, les avocats de survie de la Fédération internationale des droits de l'homme et de 6 rescapés ont écrit en ce sens au magistrat chargé de l'enquête sur les éventuelles responsabilités de l'opération militaro-humanitaire turquoise lors des massacres de Bicesero, fin juin 1994. Un grand jury américain a décidé de n'inculper aucun des policiers présents lors de l'interpellation en mars 2020 de Daniel Prude à Rochester, qui a provoqué le décès par étouffement de cet homme noir en proie à un épisode psychotique, a annoncé mardi la procureure de l'État de New York, l'Africaine-Américaine Laetitia James. « Je suis extrêmement déçu », a commenté la première magistrate de l'État de New York, tout en rappelant que les jurés étaient souverains à la matière. Le décès de Daniel Prude faisait écho à ceux d'autres Noirs, George Floyd ou Breonna Taylor, lors d'interpellations violentes qui ont suscité des centaines de manifestations aux États-Unis depuis le mois de mai. La star du golf, Tiger Woods, 45 ans, a subi mardi matin des blessures multiples aux jambes, nécessitant une intervention chirurgicale après une sortie de route et plusieurs tonneaux, alors que Tiger Woods circulait seul au volant de sa voiture près de Los Angeles. Pratt & Whitney a indiqué mardi qu'il procédera aux inspections requises par le gendarme américain de l'aviation sur les pales de moteur de Boeing 777 similaire à celui impliqué dans un récent incident spectaculaire pour toutes les compagnies exploitant dans le monde les appareils concernés. Le processus exigé par les régulateurs nécessite l'envoi des pales de soufflante dans les ateliers de Pratt et Whitney où seront menés des examens thermo-acoustiques devant permettre de repérer d'éventuelles fissures invisibles à l'œil nu, a expliqué le groupe dans un communiqué.
Thank you.
La suite de nos informations. Au Niger, Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir à la présidentielle, l'a emporté avec 55,75% des voix face au candidat de l'opposition, Mahamane Ousmane, qui a obtenu 44,25% des suffrages, a annoncé mardi la commission électorale. Nathalie Barge.
Ces résultats sont provisoires et doivent être soumis à l'analyse de la Cour constitutionnelle, a déclaré le président de la CENI, Issa Kassouna, devant le corps diplomatique et les autorités nigériennes rassemblées au Palais des Congrès de Niamey. Le taux de participation au second tour de dimanche a été de 62,91%, selon la CENI, qui a précisé que Mohamed Bazoum avait recueilli 2 501 459 voix contre 1 985 736 à Ousmane, sur un total de 7,4 millions d'électeurs appelés à voter. Monsieur Bazoum avait récolté 39,3% des suffrages au premier tour du 27 décembre contre presque 17% pour l'opposant Mahamane Ousmane. Juste avant la proclamation de ces résultats, l'opposition a dénoncé un hold-up électoral et des manifestants d'opposition rassemblés près du siège du parti au pouvoir ont été chassés par des policiers tirant du gaz lacrymogène.
Le corps de l'ambassadeur italien et celui de son garde du corps tué lundi dans l'est de la République démocratique du Congo ont été rapatriés ce mardi vers l'Italie. Eric Manirakidza.
Un avion militaire bat la capitale du Nord Kivu avec à son bord les corps des deux Italiens dans des cercueils enveloppés du drapeau italien. À Kinshasa, le président Félix Tshisekedi et son épouse Denise Nyakero Tshisekedi se sont rendus à la résidence de l'ambassadeur italien pour une visite de consolation à sa veuve et aux trois jeunes orphelines. L'ambassadeur Luca Attanasio est décédé après avoir été blessé par balle. Son convoi a été pris dans une embuscade dans la province du Nord Kivu, près de la frontière avec le Rwanda. Les ravisseurs ont tiré à bout portant sur son garde du corps, Vittorio Iacovacci, décédé sur place. Un chauffeur congolais du PAM, Mustapha Milambo, a aussi été tué. Les autorités congolaises ont accusé lundi les rebelles Hutu rwandais des FDLR, ce qu'ils démentent.
Au Mali, la justice a renvoyé au 2 mars une décision sur une tentative présumée de coup d'État impliquant 6 personnalités, dont un ancien premier ministre et un populaire animateur de radio. Elles sont poursuivies pour, entre autres, complot contre le gouvernement, association de malfaiteurs et offense au chef de l'État. Les détails avec Nani Talani.
La chambre d'accusation de la cour d'appel de Bamako devait se prononcer hier à huis clos sur la demande d'abandon des poursuites introduites par la défense. Mais elle a ordonné la réouverture des débats mardi prochain devant une chambre autrement composée, a indiqué l'un des avocats des prévenus, Kassoum Tapou. Le parquet évoque des faits présumés d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et des actions de sabotage contre des initiatives prises par les autorités de transition mises en place par les militaires après le putsch. Cette affaire a été révélée en décembre avec une série d'interpellations menées par la Direction générale des services de renseignement. Seul l'ex-premier ministre Boubou Cissé n'a pas été interpellé. Il affirme être en lieu sûr à Bamako. Sékou Traoré, secrétaire général de la présidence, a été interpellé avant d'être relâché. La justice a également écroué Mohamed Youssouf Batini, dit Ras Bat, un animateur radio très populaire.
La Minute Éco, Nani Talani.
Au Mali, il y a une forte hausse des prix de la viande due à la baisse de l'approvisionnement en bétail et à l'insécurité dans le centre du pays. Aussi, la mauvaise campagne cotonnière a augmenté le prix de l'aliment du bétail dérivé de la graine de coton. Le bétail est vendu entre 325 000 et 335 000 francs CFA la tête. À Bamako, le kilo de viande vaut entre 2200 et 2400 francs CFA, alors qu'il coûtait en moyenne entre 2064 et 2078 francs CFA il y a un an. Selon Financial Afrique, la l'approvisionnement des marchés urbains en bétail a chuté de 2700 têtes en janvier. Au Ghana, le Conseil du cacao a commencé à rembourser sa dette de 190 millions de dollars contractée auprès des entreprises de négoce. La baisse d'un tiers des ventes de contrats de cacao l'an dernier a provoqué un manque à gagner au régulateur ghanéen qui n'a pas pu mobiliser les fonds à temps pour payer les sociétés de négoce. La baisse de la demande mondiale fragilise aussi les engagements du régulateur envers ses fournisseurs. Pour terminer, en République démocratique du Congo, le projet PRISE a augmenté la puissance électrique de la région du centre de 1628 MW contre 1350 MW initialement prévus grâce aux groupes électrogènes. Par ailleurs, 40 écoles ont été construites ou réhabilitées et 20 sont en cours d'achèvement. 32 centres de santé ont été construits ou réhabilités et 28 sont en cours de finalisation. Le projet, qui prendra fin en 2023, a créé 2260 emplois. Il a été financé par la BAE.
Les sports avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Mauvaise nouvelle ici aux États-Unis. Pour commencer, la star du golf Tiger Woods, 45 ans, s'est blessé hier après une sortie de route alors qu'il circulait seul au volant de sa voiture près de Los Angeles. Dans un communiqué, son agent Mark Sandberg a indiqué qu'il souffrait de blessures multiples aux jambes. Aucun autre véhicule ne semble être impliqué dans l'accident, selon les services du shérif de comté de Los Angeles. Une source policière citée par le Los Angeles Times indique que le golfeur circulait à vive allure et a perdu le contrôle de sa voiture. Le véhicule aurait effectué plusieurs tonneaux en quittant la route, récemment opéré du dos. Pour la cinquième fois, Tiger Woods a confié dimanche ne pas être sûr de jouer le Masters en avril. Il a remporté dans sa carrière 82 tournois du circuit américain de golf PGA à égalité avec le légendaire Sam Snead. Ligue des champions en Europe, un retourné du français Olivier Giroud a permis à Chelsea de s'imposer contre l'Atlético Madrid 1-0. Hier, en huitième de finale aller, dans un match délocalisé à Bucarest, le match retour se jouera le 17 mars à Londres. Dans l'autre huitième de finale, le Bayern Munich, tenant du titre, s'est pratiquement assuré la qualification pour les quarts en allant surclasser la Lazio à Rome 4-1. Le Bayern en est désormais à 18 matchs d'affilée sans défaite en Ligue des Champions, soit 17 victoires et 1 match nul. Deux matchs allés au programme de ses huitièmes ce soir, Atalanta Bergame, Real Madrid et Borussia Mönchengladbach, Manchester City. Basketball, il est de retour. Presque 20 ans après son départ, le pivot emblématique espagnol Pau Gasol va retrouver à 40 ans son club formateur, le FC Barcelone, jusqu'à la fin de la saison. Selon la presse espagnole, le Barça, qui recherchait un pivot depuis l'été dernier, dit avoir suivi avec attention l'évolution de la fracture du scaphoïde tarsien du pied gauche qui a éloigné le grand espagnol 2,16 m des parquets pendant quasiment 2 ans. Au Barça, il retrouvera l'intérieur Nikola Mirotic, avec qui il a joué à Chicago et à Milwaukee en NBA. Meilleur joueur de l'histoire du basketball espagnol, Pau Gasol avait rejoint le Barça à 16 ans en 1996 avant de le quitter 5 ans plus tard pour la NBA où il a passé 18 années et a remporté 2 titres en 2009 et 2010 avec les Los Angeles Lakers.
Vous êtes croyant, animiste ou athée, VOA Afrique vous accorde une tribune dans le dialogue des religions pour parler de la religion, de la vie et de la société. Vous ne penserez jamais tous de la même façon, vous ne verrez qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. Vivre, c'est aussi un privilège, un cadeau à protéger. Retrouvez donc Eric Manirakiza tous les mercredis et dimanches à partir de 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com. Sans oublier la page Facebook, laissez-nous vos numéros et partagez vos commentaires ou témoignages. Mais n'oubliez pas, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu meilleur que vous l'avez trouvé. Bienvenue au Dialogue des Religions.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique en votre compagnie Idrissa Seboudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Donc au Niger, Mohamed Bazoum, Le dauphin du président sortant Mahamadou Issoufou a remporté l'élection présidentielle avec 55,75% des suffrages, selon les chiffres annoncés par la CENI. Il bat son challenger, l'ancien président Mahamane Ousmane, qui, lui, dénonce d'appel électoral. Le point avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
C'est au cri de Tchangi, ou changement en langue Hausa, que les partisans du candidat Mahamane Ousmane ont manifesté leur rejet des résultats proclamés par la CENI. Dans certains quartiers de Niamey, la capitale, certains ont dressé des barricades et brûlé des pneus. La plupart ont été vite dispersés par les forces de l'ordre. Des incidents du même genre ont été signalés à l'intérieur du pays, notamment à Zinder, le fief du candidat Mahamane Ousmane. Ce dernier qui a d'ailleurs dénoncé quelques heures avant la proclamation des résultats, un hold-up électoral. Falké Bacharou est son directeur de campagne.
Les résultats ne sont pas, dans beaucoup de cas, conformes à l'expression de la volonté du peuple et prouvent à suffisance qu'un nouveau hold-up électoral est en cours au Niger. Convaincu que rien, absolument rien, ne peut s'opposer à la volonté du peuple souverain, je demande à tous les Nigériens soucieux de la préservation des valeurs fondamentales de la République et de la démocratie de se mobiliser comme un seul homme pour faire échec à ce hold-up électoral que Mahamadou Issoufou et son clan sont en train de perpétrer contre la volonté du peuple nigérien.
Réagissant à sa victoire, Mohamed Bazoum a salué son challenger après avoir remercié le peuple pour lui avoir ainsi confié la destinée du pays pour les 5 futures années.
Je connais parfaitement mon pays, j'ai une grande connaissance de l'État. Je me sens en état d'assumer cette fonction que le peuple a décidé de me confier. Je l'assumerai avec patriotisme, loyauté et probité. Je serai un président de tous les Nigériens sans distinction aucune.
Ces résultats doivent à présent être validés par la Cour constitutionnelle avant l'investiture du nouveau président prévu pour le début du mois d'avril. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Mali, le délibéré du dossier de déstabilisation des institutions contre l'ancien Premier ministre Bobou Cissé et certains hauts cadres a été renvoyé au 2 mars. Les proches des accusés se disent surpris par cette nouvelle décision. De Bamako, notre correspondant Lamissa Sangaré.
La décision de ce mardi matin a beaucoup surpris les proches des accusés venus nommer au tribunal pour suivre les audiences, puisque déjà, des rumeurs circulaient comme quoi les personnes accusées allaient simplement être relaxées ces jours-ci. Boubacar Yalkoui.
On ne s'y attendait pas, sincèrement parlé. Vu la décision qui avait été prise par l'avocat général il y a quelques semaines de cela, parce qu'il avait recueilli la nullité quand même du dossier, de la procédure et également la levée des mandats de dépôt, pour la simple raison que le dossier est vide.
L'ex-premier ministre Boubou Cissé et plusieurs hauts cadres d'institutions maliennes sont poursuivis pour leur participation à un présumé complot contre l'État. Fin décembre, plusieurs personnalités, dont le chroniqueur à Radio Aras Bach, ont été arrêtés par la sécurité d'État, les services de renseignement maliens. Ils sont en détention depuis, la justice malienne ayant lancé une procédure à leur encontre. Les avocats de la défense demandent l'annulation pure et simple de la procédure. Ce mardi matin, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bamako a renvoyé l'audition au 2 mars. Boubacar Yalkoué soutient que la raison évoquée pour le renvoi du dossier est peu soutenable.
La raison qui a été évoquée par rapport à cela, il y a des juges qui devraient statuer sur le dossier aujourd'hui, qui avaient été mutés Ils ont reçu leur notification de mutation avant aujourd'hui. Ceux qui sous-entendent en réalité, ils ne sont plus habilités à siéger au niveau de la dite instance.
Les renvois du dossier pourraient réaffecter le cours de la procédure, affirme Boubacar Yalkouye.
Nous avons appris après cela qu'ils ont décidé de réouvrir le débat encore par rapport au dossier le mardi prochain. Ce qui sous-entend que ce qui avait été fait au préalable au temps de Aloun chez l'avocat général, ils vont reprendre cela aussi avec des nouveaux juges qui vont remplacer ceux-là qui avaient eu à faire ce travail-là.
Au dire de Yalkouye, cela n'affecte en rien leur espoir de voir ces dossiers clore sur la victoire des accusés très prochainement.
On a eu à échanger avec les avocats qui nous ont clairement dit que les arguments qu'ils ont eu à défendre les dossiers restent intacts, ces mêmes arguments sont là. Et même s'il y a des nouveaux juges face auxquels ils vont défendre encore le dossier, ils resteront toujours sur la même position. Et nous aurons quand même espéré que ceux-là qui auront en charge de réouvrir les débats auront quand même un sens d'écoute rationnel par rapport à tout ce qui s'est passé et vu également la réaction populaire vis-à-vis de ce dossier qui approuve néanmoins la nullité aussi de la procédure. Ils vont quand même entrer dans ce canevas-là.
Lamissa Sangaré, Kati, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Le Sénégal a commencé sa campagne de vaccination contre le Covid-19 ce mardi avec les 200 000 premières doses reçues du chinois Sinopharm. Les personnels de santé de première ligne, les personnes à comorbidité et les personnes âgées sont les cibles prioritaires de cette campagne qui, à terme, devrait concerner la majorité des Sénégalais. Une tâche qui ne s'annonce pas aisée car certains ne sont pas convaincus, nous dit de Dakar Seydina Abagué.
Une quinzaine de personnalités ont reçu leur première dose de vaccin dans les jardins du ministère de la Santé lors d'une cérémonie ponctuée d'applaudissements et retransmise en direct à la télévision. Puisant ses seringues dans une petite boîte frigorifique bleue, un infirmier a d'abord administré le vaccin au ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr, ensuite le ministre de la Femme Daïssa Diop Dieng et l'ex-icône de la télévision nationale Elhadj Mansour Mbaye ou encore l'infectiologue vedette Moussa Seydi. Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr souligne l'importance de cette campagne.
Nous pouvions, comme beaucoup de pays, attendre l'initiative COVAX. Il faut démarrer maintenant avec les ressources nationales dans le cadre d'une initiative propre, ce qui nous a permis d'acquérir 200 000 doses de Sinopharm.
Le vaccin Sinopharm, qui revendique une efficacité de 79%, a déjà servi dans plusieurs pays africains. Mais le Sénégal est le premier dans l'ouest du continent à lancer sa campagne qui vise en premier lieu les quelques 20 000 membres du personnel de santé et les personnes âgées. Mais au sein de la population, beaucoup restent sceptiques, comme Babacar Ndiaye.
Il y a certainement des gens qui en ont besoin. Ils peuvent le faire. Mais personnellement, j'ai décidé de ne pas me faire vacciner pour avoir en tout cas la conscience tranquille.
Sira Badiane est une jeune femme comorbide. Elle souffre d'asthme et d'anémie. La première campagne de demain concerne justement les sujets souffrant de comorbidité et les personnes exposées à la maladie. Elle trouve cette campagne positive, mais ne veut pas prendre le risque de se faire vacciner. D'autant plus qu'elle n'a aucune information sur les possibles effets secondaires.
Personnellement, je ne me ferai pas vacciner. Pourquoi? Parce que c'est pas vraiment que je ne fais pas confiance plutôt à la médecine, mais plutôt on ne connaît pas, disons, les effets secondaires qui en découlent. De notre côté, il faudrait le faire à un moment donné, c'est sûr, parce que vu que maintenant on demande des tests de corona à chaque fois qu'on veut voyager, je pense que ça ira jusqu'à un certain moment où on demandera des, disons, par exemple, des carnets de vaccination pour savoir qui a eu à faire le vaccin ou pas. So, c'est une bonne idée aussi. Dans le sens également, ça pourrait nous donner un remède définitif.
Ida Koku est une infirmière béninoise vivant et officiant au Sénégal. De par son activité professionnelle, elle a conscience des services du virus et de la nécessité du vaccin. Elle choisit de se faire vacciner car c'est avant tout un moyen efficace de prévention.
Le vaccin est essentiel dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 puisque jusqu'à présent, aucun médicament, en tout cas de façon officielle, n'a prouvé son efficacité dans la lutte contre la maladie. Et se vacciner, c'est se protéger, c'est à la fois se protéger et protéger la communauté des personnes à risque, les personnes âgées notamment et les personnes qui ont déjà une maladie comorbidité, comme on dit. Donc, moi, personnellement, je me ferai vacciner.
Le pays fait face depuis fin novembre à une montée des cas de Covid et a comptabilisé au total plus de 33 000 cas positifs et plus de 800 décès. 18 nouveaux morts ont été annoncés mardi, un record depuis le début de la pandémie. C'est Dina Bagué à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Cameroun, la société civile demande plus de transparence et de responsabilité dans la gestion des fonds d'intervention du Covid-19. Elle a lancé à Yaoundé, avec le soutien de l'initiative Follow the Money, une campagne sur l'accès à l'information des ressources financières mobilisées dans la riposte contre le Covid. De Yaoundé, les précisions de notre correspondant Emmanuel Julentap.
Vu que nous sommes au Cameroun, nous comprenons le contexte du Cameroun.
La campagne du Cameroun est pilotée par ADE, Action for Development and Empowerment. Cet organisme de la société civile a été fondé il y a 3 ans par une jeune activiste camerounaise.
On utilise Follow the Money pour ce projet. C'est pas qu'on va juste trouver des informations et après les distribuer et rien ne se passe.
Nancy Ndisaibo, point focal de Follow the Money au Cameroun, est fondatrice d'ADE. Action for Development and Employment.
On va aller dans les communautés, en fait, dire que parce que ce que l'État a dépensé pour le Covid, quand on voit ce que le ministère a publié, ils disent qu'ils ont, les gens ont donné, mais bref, qu'est-ce que vous avez fait concrètement de cet argent? À nous maintenant, les citoyens de ce pays, d'aller sur des plateformes, parler et communiquer.
Plusieurs influenceurs sociaux et le député Jean-Michel Nitieu du Social-Démocratique Front, un parti de l'opposition, ont décrié la gestion des fonds et dons alloués au ministère de la Santé dans le cadre de la riposte contre le Covid-19. Une fois encore, Nancy Ndisaibo, point focal de Follow the Money au Cameroun.
Mais le ministre dit qu'il a envoyé les riz dans les départements. C'est après cette pression qu'il est revenu sur les médias nous parler de ce qui s'est passé avec les sacs de riz. On doit savoir ce qui se passe.
Le Cameroun a reçu 316 millions de dollars du Fonds monétaire international et de la Banque africaine de développement en appui à la lutte contre le Covid-19. D'autres sommes ont été versées par des particuliers et entreprises locales au Fonds de solidarité publique. Sur la sellette, le ministre de la Santé a publié 2 communiqués en juillet et décembre dernier sur les fonds du Covid. Malachi Manaouda, ministre de la Santé publique.
Tout ce que nous avons reçu comme dons en nature, des concours en numéraire, nous les avons publiés également. Et puis on a publié les entreprises qui ont gagné des marchés, le montant de marché, la nature de ce marché-là, la date de signature de leur contrat, les bénéficiaires finaux de ces contrats-là. Et donc, je crois qu'il est important de reconnaître les efforts du gouvernement.
La campagne baptisée COVID-19 Transparency and Accountability in Africa s'appuie sur un réseau d'activistes de l'initiative Follow the Money, né au Nigeria et déjà opérationnel dans 7 pays. Jusqu'ici, rien n'a filtré du rapport d'audit des fonds Covid instruit en décembre dernier par le président Paul Biya. Le Cameroun a déclaré son premier cas positif au Covid-19 le 6 mars 2020. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Rappelez-vous que RM Show est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, job blessed. Peace. Africa. If you wanna run away with me, I know it's Alexi and I can take you for a ride. I had a friend in the sun, now we fell into a rhythm where the music don't stop all night. Glitter in the sky, glitter in my eyes, and it's the way you fly. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. We'll be right back.
this ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. She fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Need someone to hug, even took it back to the basement. You see what you got me out here doing? Yeah. Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seloudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.